de vive voix. Nos territoires prennent la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet de l'intelligence collective au sein des organisations comme les collectivités locales. L'intelligence collective, qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Quand y fait-on appel et pourquoi le fait-on ? Pour répondre à vos questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Isabelle Frossard. Vous êtes directrice du pôle enfance et jeunesse à la communauté de communes du Grand Langres, dans le département de la Haute-Marne. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Isabelle, issue de la fusion des communautés de communes de l'Étoile de Langres et du Bassigny, la communauté de communes du Grand Langres existe depuis le 1er janvier 2017. Pourriez-vous dire à nos auditeurs et auditrices dans quel but ce regroupement a eu lieu ?
Alors, ce regroupement a eu lieu dans le cadre notamment de la loi NOTRe et aussi particulièrement dans le cadre de la prise de compétences scolaires, péri- et extrascolaires pour cette nouvelle communauté de communes.
Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, mutualiser et construire ensemble sont deux des objectifs fixés par la communauté de communes du Grand Langres. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. L'enfance et la jeunesse étaient initialement une compétence des communes, avec une direction de l'éducation rattachée à la ville de Langres, qui compte un peu plus de 7000 habitants, 700 élèves et 45 agents. Et puis la fusion en janvier 2017 est effectivement intervenue simultanément à cette prise de compétence avec une évolution très importante puisque la direction de l'éducation compte maintenant 1700 élèves, 110 agents et un budget de 3 600 000 euros. Voilà un petit peu en ce qui nous concerne l'évolution de cette nouvelle communauté de communes.
Effectivement. Continuons si vous le voulez bien. Sur le site internet de Grand Langres, on peut lire que parmi les compétences exercées dans la communauté de communes se retrouvent la petite enfance, le scolaire, le périscolaire, l'extrascolaire, les transports scolaires, ce que vous venez de dire. Ces 5 compétences sont regroupées donc dans la direction que vous gérez. Et pouvez-vous nous dire comment a évolué votre direction suite à la fusion des deux communautés de communes que j'ai évoquées au début d'émission ?
Alors, elle a fortement évolué, comme je vous l'ai précisé, et effectivement, avec trois objectifs à cette prise de compétence. Dans un premier temps, il convenait d'intégrer le personnel, puisqu'on est passé de 45 agents à un peu plus de 100, en repensant l'organigramme, en professionnalisant notamment les agents en secteur rural, avec une montée en compétences des équipes et une volonté de partager un projet éducatif commun. Dans un deuxième temps et plutôt simultanément, des décisions et des enjeux politiques extrêmement forts, notamment en termes d'harmonisation des tarifs, des budgets, des dotations, des subventions, des différents fonctionnements en termes d'horaire, d'accueil. Et puis, dans un troisième temps, et c'est là que nous en sommes maintenant, après bientôt 4 ans de prise de compétences, sur la valorisation de nos projets, avec une volonté véritablement de remettre au cœur de notre travail le projet de service pour donner un même sens et une cohérence à nos actions.
Donc là, donc si j'ai bien compris, donc une réorganisation assez profonde de votre direction. Les aspects mutualisation, ça voulait dire quoi, les aspects partage de projets ?
Alors l'aspect de la mutualisation, donc nous on est au-delà de la mutualisation puisque l'ensemble des agents a fait le choix d'intégrer la communauté de communes, donc les 110 agents sont véritablement des agents intercommunaux avec la compétence de la communauté de communes du Grand Langres. Quant au projet de pôle, évidemment, l'intérêt, c'était de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations après toutes les problématiques évoquées précédemment, parce qu'évidemment, dès lors qu'on parle d'harmonisation, il y a des moments où c'est pas simple pour les agents. Donc, L'idée, c'était vraiment de retrouver l'essence même de notre métier et de définir les quatre axes de ce projet, qui dans un premier temps était la communauté éducative, hein, notamment dans l'articulation temps scolaire, périscolaire, parce qu'au-delà des agents du pôle, il convient dans nos actions quotidiennes de négocier, si on peut dire les choses de cette façon-là, avec l'éducation nationale, qui est notre partenaire essentiel, l'accompagnement à la parentalité, qui là aussi est l'essence même de notre métier dans l'accompagnement des familles, la bienveillance de tous les instants et puis une volonté de communiquer pour valoriser l'ensemble de ces actions et des projets qui sont mis en œuvre par les différents professionnels de l'éducation au service des familles et des enfants.
Et donc là, donc cette réorganisation, c'est aussi une transformation de votre façon, de votre organisation. Est-ce qu'il y a eu un accompagnement auprès des agents ou est-ce que ça s'est fait basé sur leur bonne volonté?
Alors oui, il y a eu un fort accompagnement, hein, et notamment qui a débuté très récemment puisque les trois premières années ont été vraiment consacrées à tous les enjeux stratégiques et politiques que j'ai pu évoquer. Donc nous en sommes maintenant, même si ça peut paraître long, 3 ans et demi, l'absorption d'une telle compétence est extrêmement longue, fastidieuse, tant dans les différents process, mais aussi en termes de gestion RH, hein, comme j'ai pu le soulever. Et nous en sommes effectivement maintenant à la partie davantage qualitative avec l'accompagnement des différents professionnels, hein, puisqu'on a différents corps de métier qui sont représentés au sein du pôle. On a à la fois un responsable des affaires scolaires, des coordinateurs enfance jeunesse, des personnels administratifs, des directeurs péri et extrascolaires, des animateurs, des ATSEM. Donc effectivement, il a fallu accompagner et professionnaliser tout ce petit monde, si je puis me permettre l'expression. Et effectivement, actuellement, nous sommes donc dans un accompagnement de qualité sur la co-construction d'un projet de pôle.
Donc, vous avez parlé de l'intervention des DRH, de la DRH. Ça veut dire qu'il y a des plans de formation prévus? C'est planifié sur plusieurs années? C'est plutôt le mois comme échéance?
Alors, on a plusieurs actions de formation. On a d'une part de ce qu'on appelle de la formation continue, hein, puisque l'ensemble des agents du pôle, dans leur planning, sont inscrits des heures de réunion identifiées comme de la formation continue, qui sont vraiment des formations de terrain en interne dans ce cadre de la formation continue. On a de la formation à l'initiative des agents, hein, puisque notre offre de formation est le catalogue du CNFPT, donc chaque agent est libre de pouvoir s'inscrire à des formations dans ce cadre, hein, qui est plutôt le cadre là de la professionnalisation. Et puis un dernier volet qu'on appelle donc la formation en intra, là aussi une émanation du CNFPT, mais cette fois c'est le CNFPT qui se déplace à nous et qui répond à un cahier des charges qu'effectivement j'ai eu l'occasion de solliciter dans le cadre du montage de notre projet de service. Voilà un petit peu les différentes formations auxquelles nous pouvons prétendre et qui peuvent s'inscrire de façon ponctuelle ou pluriannuelle, hein, ce qui est le cas du projet de service, du plan de formation de la collectivité.
Merci Isabelle. Le temps passe et notre pays s'est retrouvé confiné de fin mars 2020 à mi-mai 2020. Face à cette crise sanitaire, vous avez dû adapter la réalisation de votre projet. Et comment avez-vous fait?
Alors, trois mots d'ordre. On s'est adapté, on a osé et on a innové, sans savoir véritablement où ce projet allait nous mener et surtout pas en imaginant que nous en serions encore au mois de novembre à la co-construction et à la réalisation de ce projet de service qui devrait voir le jour l'été prochain. Effectivement, donc on a innové dans le sens où on a commencé sur une plateforme collaborative qui est proposée aux collectivités et qui est Idéalco, qui était une plateforme gratuite où on a pu à la fois avoir un espace de gestion de projet, des salles de réunion virtuelles, un mur d'échange, donc effectivement c'était l'endroit idéal pour partager notre créativité, travailler en grand groupe, en sous-groupe, découvrir des boîtes à outils, progresser dans l'acquisition des méthodes de travail, notamment en mode gestion de projet. Et puis évidemment, une fois qu'on était tous parfaitement habitués à cette plateforme, le déconfinement l'a rendue payante et nous avons cette fois osé le changement en basculant sur Teams, fort d'une expérience et d'une capacité d'adaptation. Donc l'ensemble de cette formation, effectivement, en distanciel, a réussi à être basée sur l'animation participative avec des outils d'intelligence collective et qui a véritablement permis à chacun de s'exprimer, notamment en supprimant les niveaux de compétences au sein du service, puisque le distanciel permet cela bien plus facilement, en prenant confiance en soi pour relever chacun des défis, parce que quand on fait face aux nombreux aléas informatiques, effectivement, les surmonter, ça permet aussi de se rendre compte qu'on est capable. Donc, malgré la distance, malgré le virtuel, il y a eu véritablement une dynamique de groupe qu'on n'imaginait pas et qui s'est poursuivie tout au long du distanciel et qui, évidemment, nous poursuit encore maintenant.
Et donc, vu tous ces contextes, ces aléas, et techniques et aussi sanitaires et de société, quel regard portez-vous sur la façon dont vous avez mené cette action, ce projet, cette réorganisation?
Alors, même si effectivement le projet n'est pas complètement terminé, comme je vous l'ai précisé, l'objectif, pour moi, il est atteint. L'objectif, c'était comment piloter un projet de service avec des outils d'intelligence collective en associant l'ensemble des équipes. Donc voilà, c'est réalisé. Les compétences professionnelles qui étaient visées sont atteintes. Ça a permis de clarifier le rôle de chacun, mieux animer ses projets et ses réunions avec des outils participatifs, associer les acteurs concernés par le changement, construire notre propre boîte à outils, mettre en place une dynamique collective, j'en ai parlé tout à l'heure avec la réalisation de ce projet de service. Donc c'est une action qui a véritablement permis de vivre, à mon sens, une expérience humaine riche et j'ai envie de dire presque unique, avec une formation totalement sur mesure, que ce soit en format distanciel ou en format présentiel, parce qu'on a eu la chance de pouvoir la vivre aussi en présentiel sur la période de juin à août et notamment avec l'aboutissement d'un séminaire. L'envie et le besoin d'aller toujours plus loin, c'est voilà dans le osons, un partage des valeurs et d'une vision avec les équipes, et puis la co-construction d'un projet avec l'ensemble des acteurs. Donc même si la démarche mobilise beaucoup de temps et d'énergie, je dois dire que je suis à la fois fière et ravie de ce travail innovant, créatif et dynamique, co-construit avec les équipes, et puis plutôt impatiente de retrouver les agents du pôle sur notre prochain séminaire de l'été 2021 pour partager le projet de service, mais cette fois dans son aboutissement.
Donc c'est l'avant-Covid et après-Covid?
Oui, on peut dire ça. J'espère qu'on sera à l'après-Covid l'été prochain. Autrement, on imaginera ce séminaire une nouvelle fois en format distanciel.
Bon, merci Isabelle Frossard. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directrice du pôle Enfance et Jeunesse de la communauté de communes du Grand Langres, située dans la région Grand Est, et plus précisément dans le département de la Haute-Marne.
Merci beaucoup à vous pour ce temps de partage et d'écoute.
Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
De vive voix, nos territoires prennent la parole.